Octave Mirbeau. Des artistes, saison 2. Gustave Geffroy. Le critique est, en général, un monsieur qui, n'ayant pu créer un tableau, une statue, un livre, une pièce, une partition, n'importe quoi de classable, se décide enfin, pour faire quelque chose, à juger périodiquement l'une de ses productions de l'art, et même toutes à la fois. Étant d'une ignorance notoirement universelle, le critique est apte à toute besogne et n'a point de préférence particulière. Livre de philosophie ou poème, eau-forte ou fresque, vaudeville ou drame lyrique, tout lui est bon. Il s'en instaure le juge, au hasard des places vacantes, et sous la protection d'une ignorance directoriale encore plus grande que la sienne. Si son ambition le conduit le plus souvent vers le théâtre, c'est qu'il a flairé là des profits certains, sans compter de certains plaisirs extralittéraires, bruns ou blonds, qu'un habile homme peut se procurer sans autre frais que des adjectifs bien placés. Il y a des exceptions. Il y en a même d'illustres et de charmantes. Il ne viendra jamais à l'idée de personne de confondre de nobles esprits comme messieurs Jules Lemaître et Henri Séard, par exemple, de délicieux artistes, de merveilleuses intelligences comme messieurs Anatole France et Lucien Mulfeld, et même de doctes bouquinistes comme monsieur Brunetière, avec les ordinaires bafouilleurs et les condottieris sinistres qui sont le plus bruyant ornement de cette profession. Ensuite, tout le monde accepte, malgré les jalousies ambiantes, une autorité acquise par du travail, par de hautes habitudes intellectuelles, et par quelque chose de plus mystérieux et de plus rare, la qualité supérieure des sensations. Bref, ceux que je viens de nommer, et d'autres encore, réhabilitent ce métier bien déconsidéré, il faut le dire, à moins qu'ils ne le rendent tout à fait déshonorant par les comparaisons, hélas, qu'ils font naître. Monsieur Gustave Geffroy est de ceux-là. Il est même l'un des premiers parmi ceux-là. Si son œuvre livresque n'est pas encore considérable, son œuvre de journalisme est l'une des mieux remplies, des plus attachantes, des plus absolument belles que je connaisse. Avec une prodigalité inlassable, il a éparpillé dans les journaux et les revues du talent assez pour en faire la matière de 20 volumes. Je vois avec grand plaisir qu'il songe à sauver de l'oubli quelques-uns de ses morceaux préférés qui ont trait à l'histoire de l'art contemporain et à leur donner la perdurabilité du livre. Mais combien de pages éloquentes et charmantes, écrites dans la fraîcheur de la sensation immédiate, sous le coup de fièvre de la passion, combien qui seront perdues et demeureront enfouis dans les collections inviolées des bibliothèques, où nul, pas même lui-même, ne viendra les tirer et les réunir. C'est là vraiment une grande tristesse. Que de fois le souvenir me revient de choses exquises lues autrefois et que je voudrais relire aujourd'hui et que je ne puis retrouver et qui dorment quelque part, le diable sait où. Un ami me disait « C'est pour moi un sujet d'insoutenable mélancolie, à penser que ce que nous appelons les chefs-d'œuvre des littératures anciennes, ce n'était probablement que les œuvres médiocres de ces temps-là, consacrées par les critiques d'alors, transmises par les critiques d'après. Je suis persuadé que les œuvres d'un génie particulier, c'est-à-dire celles qui vraiment importent, les Maeterlinck d'autrefois, les Emerson, les Whitman, les Barrès, les Hervieux, etc. On ne les connaît pas, on ne les connaîtra jamais. Oui, quelques vieux paperassiers, quelques farfouilleurs de cendres peuvent les découvrir, mais ils n'y comprendront rien et n'en parleront pas. Que de trésors inconnus sont ensevelis dans la poussière éternelle. Songez à cela, c'est effrayant. Nous ne connaissons que les Thiers, les Gaston Boissier, les Sarcey, les Déroulède. Pourtant, insinuai-je, Sophocle, Shakespeare, Pascal, diable, Oui, sans doute, 3 ou 4. Mais les autres, l'immense foule des autres. Comment, vous ne pensez pas que la postérité... Il se récriait et poussait de petits cris plaintifs. La postérité, vous croyez à cela, vous? La postérité, mon ami, mais c'est Sarcé continué. J'avais beau lui citer des noms illustres, des noms aimés, il s'obstinait. Non, non, trouvez-moi dans la littérature ancienne l'analogue de ce délicieux Pierre Weber, de cet irrésistible Tristan Bernard, de ce troublant Marcel Schwab, de ce génial Claudel, de ce Beaubourg. Et pourtant, il y en a eu. Mais quoi, l'âme de Sarcé emplit toute l'histoire. Ne nous égarons pas si loin et jouissons du présent qui nous est offert. M. Gustave Geffroy réunit en un volume sous le titre « La vie artistique » et précédé d'une belle préface de M. Edmond de Goncourt quelques-unes de ses belles études sur les artistes de ce temps. Manet, Monet, Rodin, Carrière, Pissarro, Puvis de Chavannes, Whistler, etc. C'est bien la vie artistique, en effet, ce volume, car M. Gustave Geffroy ne se borne pas à l'examen de ces grandes figures. Il nous montre, pour ainsi dire, jour par jour, toute l'histoire de l'art d'aujourd'hui, aussi bien ses avortements que ses triomphes. S'il suit la cohue à travers les désolantes salles des expositions officielles, on le trouve aussi partout où il y a quelque chose à voir. Il nous promène de Jérôme à Seurat, de Carolus Duran à Maurice Denis, de Pelouse à Vincent Van Gogh. Aucune manifestation de l'art ne lui échappe, ni une fresque, ni un dessin. Sa passion le mène du Louvre, où, un jour de spleen, il interroge les sarcophages égyptiens, aux salles des néo-impressionnistes et des symbolistes, où il sait démêler, parmi tant de recherches obscures souvent, parmi tant d'impuissances, se muant en fumisterie, l'artiste de demain. De la clarté et de la couleur, une sensation rare et forte des choses, une admirable compréhension des formes et de ce qu'elles évoquent, souvent à l'insu du peintre lui-même, de beauté intellectuelle et de mystère humain, un esprit toujours hanté d'idées nobles et de vérités profondes, instinctivement porté vers les grandes généralisations, un style élégant, nuancé, riche d'expressions, plein de lumière. Telles sont les qualités dominantes de M. Gustave Geffroy. Aucun ne sait décrire un tableau comme lui, aucun en faire jaillir la philosophie inaperçue de qui ne sait voir et comprendre. Voyez comme il parle de l'Olympia de Manet. Je ne puis résister au plaisir de citer cette page, chef-d'œuvre d'intelligence, de couleur et d'art. Là, l'écrivain se hausse jusqu'au génie du peintre. C'est un produit de grande ville, l'errante des rues, fatiguée au pavé, salie au ruisseau. En sa courte jeunesse, elle connaît les fortunes contraires, les hauts et les bas de l'existence. Ouvrière au maigre salaire, mal nourrie, amoureuse en promenade de banlieue de dimanche, femme savante de sa chair à 16 ans, battue par des brutes, adorée par des frénétiques et des délicats, c'est une épave de civilisation promise à la misère et à l'hôpital. Et plus loin, Olympia est délicieuse et touchante, et tous ceux qui ont au cerveau un peu de pitié aimeront cette nerveuse et anémiée fillette aux yeux cernés. Ces vaincus de naissance auront été, en ce siècle de compréhension, des inspiratrices de poètes, de ceux qui veulent en clore des pensées dans des rimes, de ceux qui cherchent l'expression par l'harmonie des lignes et des couleurs. Cette face d'esprit instinctif, cette face d'enfant vicieux aux yeux de mystère, où un peu d'innocence erre encore dans les montantes eaux troubles, ce jeune corps fragile au sein frêle, aux bras minces, aux jambes fines, ce corps respirant, doux et triste comme une fleur fanée, disent tout cela de façon précise aux yeux qui regardent et qui interrogent. mais ils ne le disent pas sous un despotisme d'intention du peintre. C'est toujours avec la même hauteur de pensée, avec le même profond regard qui va par-delà les surfaces des couleurs et des formes, chercher l'âme même des choses et des êtres. C'est avec la même émotion de poète et de penseur que M. Gustave Geffroy nous montre les œuvres de Monet, de Rodin, de Pissarro, de Renoir, et qu'il les fait passer, de l'esprit même de ces admirables artistes, dans son esprit à lui, où elles gardent leur grandeur expliquée et comprise. Avant de regarder les œuvres d'art, M. Gustave Geffroy a regardé la nature, et il en a senti avec quelle aiguë et noble pitié toute la tristesse, toute la misère et toute la beauté. Avant de décrire les œuvres des autres, il a écrit des œuvres à lui, dont quelques-unes sont de véritables petits chefs-d'œuvre, hélas, disséminés çà et là dans les périodiques. Paysages de villes et de figures, coins de faubourgs parisiens, drames tragiques de la mer, que nous pourrons relire en volume, j'espère, en attendant les grandes œuvres promises, comme cet Enfermé, dont je sais d'inoubliables pages, et qui consacreront aux yeux de la foule ce que vous êtes depuis longtemps au cœur de vos amis, mon cher Geffroy, un des plus parfaits écrivains, un des plus nobles esprits de ce temps. Écho de Paris, 13 décembre 1892.